Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Dans cette émission, on va reprendre un petit peu les travaux du Parlement sur la question budgétaire notamment. Alors en ce moment, il s'agit essentiellement de la question des recettes, pas tellement de la question des dépenses. Ça va venir dans les prochains jours. Mais cette partie sur les recettes, elle est pas forcément très réjouissante. Donc je voudrais faire une sorte de petit tour d'horizon. Déjà pour commencer, notre situation budgétaire, pour rappel, est assez préoccupante. Le déficit public de 2025 atteint désormais un niveau préoccupant de 5,4% du PIB. Alors, il devait à l'origine théoriquement être ramené à 4,7% du PIB en 2026, mais du coup, après quelques ajustements comptables, il se maintiendra plus vraisemblablement autour des 5%. La dette publique, elle est de 3 400, même presque 3 500 milliards, avec une charge d'intérêt. C'est un peu la priorité que donnait François Bayrou à partir du moment où il avait compris que il n'allait plus être Premier ministre, il nous a dit toute la vérité.
Il s'est mis à avoir du courage.
Voilà. Donc cette charge d'intérêt de la dette, elle passe de 58 milliards d'euros en 2024 à 67 milliards en 2025. Et on estime que ce sera à près de 100 milliards attendus à la fin de la décennie, selon la Banque de France. Donc voilà, on a normalement cette exigence d'essayer de passer un budget avec un déficit largement réduit. Et pour
Ah
ça,
bon?
en fait, on a, oui, en principe.
Non, il n'est pas réduit puisqu'on reste à 5 et de 5,2 à 5,3.
Oui.
Il n'est pas réduit.
Bah, il est pas tellement réduit, non?
Non, mais je vois ce que je veux dire. Bon, 5%, 6%, ça fait 12. 5%, ça veut dire que grosso modo, la dette, si elle continue à croître de 5%, ça veut dire qu'elle double en 14 ans à peu près, hein. Le PIB qui croît, si tout va bien, de 2% par an en
Oui,
nominal.
si tout va bien, parce que là, on est plutôt autour de 1%, si tout va bien.
Donc mettons 2% pour être, c'est 36 ans. Donc notre dette va doubler en 14 ans et notre PIB va doubler en 36 ans. Ça veut dire que d'ici 14 ans, la dette sera facilement deux fois le PIB et que le service de la dette sera probablement. Aujourd'hui, on est à peu près à 2,5, on est sans doute à 5 ou 6% de service de la dette, dont la moitié est payée par l'étranger, c'est-à-dire 5%, allez, de perdre 2,5 à l'étranger, comme d'une croissance sera de 2%, dans l'hypothèse ainsi faite, ça veut dire que le revenu disponible des Français baissera de 0,5% par an. Et c'est sûr.
Effectivement, et en fait, les députés ne semblent réfléchir que selon, et en plus de ça, avec beaucoup de mal, mais que selon le calcul recettes moins dépenses. Et le truc, c'est qu'ils ne pensent pas d'abord à réduire les dépenses, ils pensent d'abord à essayer d'augmenter les recettes. Le problème, c'est que c'est pas juste une question, parce que je vois à chaque fois dans les exposés des différents amendements, je regarde un petit peu le travail de l'Assemblée nationale là-dessus. Ce qui revient très souvent comme justification, c'est ça va rapporter tant. Ah, c'est génial, ça va rapporter tant. D'une part, ce n'est pas sûr. Premièrement, quand même,
Bah, je sais pas si par
c'est un assez
exemple
gros
mettre une
morceau.
taxe comme ils veulent le faire sur les transactions boursières ou je sais pas quoi, ou trop rapide, ben elle va avoir lieu. La taxe va rien rapporter du tout parce que les transactions iront se faire à Londres, quoi. Donc si vous voulez, ils m'annoncent une économie, je sais pas, une recette de 3 milliards ou je sais pas quoi là-dessus, puis pour, il y aura zéro.
C'est un peu ça, souvent. C'est comme, alors après, il y a des taxes qui sont plus facilement évitables que d'autres. Typiquement, les taxes, c'est un peu ce qu'on disait l'autre jour, c'est que les taxes en général les plus efficaces, c'est la TVA et la taxe foncière, parce que c'est très difficile d'y échapper. Donc les gens, ça leur fait mal, mais ils payent. Et par exemple, il y a quelques années, il y a eu une taxe sur les yachts qui a été mise en place. Pour le coup, les yachts, c'est facile de les déplacer et de les immatriculer ailleurs. Du coup, cette taxe ne rapporte quasiment rien aujourd'hui.
Par
Donc il y a taxe et taxe.
contre, les ports qui abritaient ces yachts en France, ben maintenant ils sont tous à Marbella ou en Tunisie,
C'est
quoi.
ça, c'est ça.
C'est intelligent.
Oui, c'est très intelligent. Et du coup, le projet de loi de finances prévoit une hausse de 36 milliards d'euros de la dépense totale en 2026, dont 29 milliards pour la dépense primaire, c'est-à-dire hors charge de la dette. Donc là, on n'est pas du tout dans une logique de baisse de dépenses, au contraire. Et le problème, c'est que réfléchir uniquement en termes de hausse des recettes, ça peut marcher lorsque vous avez un taux d'imposition autour de 30-35% au global. Quand vous êtes comme ce qu'il est en France, le problème c'est que ça va derrière, tout le monde va se serrer la ceinture et donc ça va limiter largement la croissance économique, ce qui est quand même un moteur extrêmement puissant pour se sortir de l'endettement.
Ben, en principe, si vous voulez, encore une fois, je le répète, je l'ai déjà dit, mais je ne connais pas un seul exemple, sauf un exemple un peu curieux avec Clinton qui a bénéficié d'un boom Internet au moment où il a augmenté les impôts, mais qui avait rien, c'était tout à fait... Je ne connais pas un seul cas d'une réduction du déficit budgétaire qui ait été atteinte par une augmentation des impôts.
Oui, c'est ce qu'on avait vu c'était il y a 2 semaines ou 3 semaines, quelque chose comme ça. On avait tenté de regarder dans l'histoire, si possible.
Vous avez des réductions des dépenses, voilà, et des baisses des impôts en même temps, ça marche.
Voilà, et puis parfois vous aviez, c'est difficile de voir la globalité de la chose, c'est-à-dire que parfois il y a des budgets des déficits qui se résorbent parce qu'on a augmenté la TVA de 13 à 16% par exemple, mais en général ça s'accompagne aussi d'une baisse de dépenses. Donc il y a les deux mouvements en même temps, et à chaque fois ce qu'on voyait c'est que il y avait souvent, c'était les taxes foncières et TVA du coup qui fonctionnaient, et on partait de beaucoup plus bas que là où on est aujourd'hui. Donc aussi, c'est pas pareil d'augmenter la TVA de 15 à 20% que de l'augmenter de 25 à 30, par exemple.
Ben, c'est la réduction ad absurdum, si vous voulez. C'est ce que j'utilise souvent quand j'essaie de discuter avec des gens qui sont pas très malins. Vous leur dites, si réduire le temps de travail, par exemple, réduire le temps de travail réduit le chômage, à ce moment-là, si plus personne ne travaille, il n'y aura plus aucun chômage, quoi. Oui. C'est la réduction à Tapirona. Donc vous...
Et en plus de ça, c'est pas vrai, puisqu'on a quand même un taux de chômage supérieur.
Non, mais si plus personne ne travaille, plus il y aura plus rien à bouffer non plus. Oui. C'est-à-dire, il n'y aura plus personne au chômage, mais puisque personne ne travaillera. Donc.
Oui, c'est vrai.
Donc, augmenter les impôts, bon, si on prend 100% de ce que les gens gagnent, on atteint une limite. Mais à ce moment-là, ils n'auront plus rien pour vivre non plus.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il faudra être faudra avoir une psyché très particulière pour aller se lever le matin pour travailler quand vous savez que 100% de ce que vous gagnez est...
Et puis surtout, comment vous paierez votre trafic, votre trajet? Si vous avez pris 100%, vous allez payer.
Normalement, si on vous a pris 100%, c'est que derrière, l'État est censé au moins assurer vos coûts de transport ou quoi que ce soit. Bon.
Mais s'il y a des grèves.
S'il y a des grèves, là, vous
êtes. Parce qu'on leur prend 100%.
Oui, bien sûr, là, c'est le principe. Hein, c'est que l'État peut décider de faire quelque chose, mais c'est pas parce qu'il décide de faire quelque chose qu'il le fait bien.
Ou qu'il arrive le résultat qu'il espère.
Qu'il arrive au résultat.
Moi, c'est. J'aurais aimé. Être un meilleur joueur de tennis que je ne l'ai été, mais c'est pas parce que je décidais que je voulais être un meilleur joueur de tennis que si je m'entraînais pas 5 heures de plus par jour, ben j'y arriverais pas, quoi.
Ouais, oui.
Il y a quand même un certain rapport entre les efforts et le résultat.
Ouais,
je sais bien que c'est pas convenable de dire ça, mais.
C'est ça, mais en fait, j'ai un peu l'impression que c'est cet état d'esprit dans lequel nos parlementaires sont. Donc, c'est pas que le gouvernement, hein, c'est l'ensemble aussi des parlementaires. Ils sont dans une logique de j'invoque le résultat. C'est-à-dire je veux faire quelque chose, donc on va le faire, et puis tant pis si ça se passe mal, ou enfin bref.
Ça veut dire que derrière ces invocations, il y a aucune sanction.
Ah non, bah non.
C'est-à-dire
bien
par
sûr,
exemple, je sais pas, mais. Le but dans la vie, c'est si vous prenez une décision et qu'elle est mauvaise, on ne vous maintient pas au même endroit où vous n'êtes pas promu. Vous allez, vous reposer quelque part à la campagne. Tandis que là, c'est extraordinaire, tous ces gens qui nous disent « je vais faire une justice sociale » ou je ne sais pas quoi, mais ils n'arrivent à rien du tout, le pays se viande, et ils sont toujours là.
Oui.
C'est extraordinaire, tu vois. À quel point...
Ils ont vraiment tenu à rester là, puisqu'ils ont tout fait pour éviter une
dissolution. Une dissolution. Et en même temps, j'ai vu que sur le PR, là, il y avait 22 ou 23 des députés qui avaient PR qui avaient été élus avec les voix de LFI.
Oui. Forcément, eux, ils n'ont pas intérêt à avoir leur siège en jeu. Hein, c'est sûr.
Non.
Et il y en a quelques-uns chez LR aussi qui sont passés à pas grand-chose contre le RN. Et donc, on sait qu'eux sont passés aussi grâce aux voix de la gauche et d'extrême gauche.
Donc, vous vous retrouvez dans un monde où il y a une différence d'intérêt entre la classe politique et le reste du pays.
Oui, ouais, tout à fait.
Donc, on a un vrai problème de... Oui. Le pays, dans le fond... est mis à feu et à sang par une classe politique qui continue ces politiques dont on sait qu'elles sont dont tout le monde sait qu'elles sont imbéciles parce que leur survie à eux en dépend, quoi.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pendant qu'ils font ça, ils font que creuser davantage leur tombe pour la prochaine échéance.
Ouais.
Parce que là, j'ai vu, sans rien faire, littéralement sans rien faire, dans tous les sondages d'opinion, la popularité de Bardella apparemment ne fait qu'augmenter. Il était testé pour l'hypothèse présidentielle avant, en septembre, là, avant l'histoire de la censure et de la dissolution, etc. Il était testé à peu près à 33%. Et là, en ce moment, il est testé autour de 37%. C'est-à-dire, ça nous ramène à des scores mitterrandiens dans les années 70, quoi.
Espérons qu'il sera moins désastreux.
Ouais. Espérons.
S'il est élu.
S'il est élu, effectivement. Donc, premier texte que je voudrais évoquer, c'est un des pires, je crois. On va en discuter, c'est l'impôt sur la fortune improductive. Alors déjà, la première chose, je vais décrire parce que il s'agit quand même d'expliquer aux gens de quoi il s'agit. Donc c'est un dispositif qui remplace un petit peu l'impôt sur la fortune à l'ancienne, en sortant de son assiette, je cite, les actifs immobiliers improductifs, étant considérés comme tels les biens loués à plus d'un an répondant à des critères notamment environnementaux, tout en y intégrant ou y conservant ou intégrant les actifs improductifs, c'est-à-dire les biens immobiliers non productifs, biens meubles corporels, donc objets précieux, voitures, yachts, avions, meubles meublants, actifs numériques, assurance vie aussi pour les fonds non alloués à l'investissement productif, c'est-à-dire en gros aux actions. Alors déjà, est-ce que il existe réellement, est-ce que c'est aussi facile que ça de définir ce qui est productif et ce qui n'est pas productif dans l'investissement?
Pas du tout. Il n'y a aucun moyen de le savoir. C'est si vous voulez, encore une fois, la valeur, puisque ce qu'ils ont l'air de dire, c'est qu'il y a des biens dont l'usage ne crée pas de valeur. Mmh. Ben, la valeur, c'est déterminé dans l'œil de l'autre. Ce n'est pas l'État qui détermine ce qu'il y a de la valeur en fonction du nombre d'heures travaillées, sauf dans la sécurité sociale, des trucs comme ça, où on a la valeur travail, qui est l'idée marxiste. Mmh. On sait tous qu'elle est fausse depuis à peu près 120 ans, quoi. C'est depuis qu'il y a eu les Autrichiens, les économistes autrichiens, on sait que la valeur travail, c'est une connerie. Mais ça fait rien, toute la gauche française continue à parler selon le principe de la valeur travail. C'est-à-dire qu'on est dans une pensée magique, où les gens, si vous voulez, décrètent que, je sais pas, avoir une résidence secondaire dans laquelle vous vivez agréablement alors que vous travaillez comme un fou quand vous êtes à Paris, c'est improductif. Mmh. Mais si, qu'est-ce que vous en savez? Peut-être c'est là que le type a ses idées, j'en sais rien. Si c'est un musicien, ou c'est, si c'est un artiste, il peint peut-être là-bas, ou il fait de la musique, ou j'en sais rien. Donc si vous voulez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est cette façon de faire passer la morale. Alors, cette création de valeur est convenable et celle-là ne l'est pas.
Oui.
Et donc, on va taxer celle qui ne l'est pas. Mais qui décide de ce qui est convenable ou pas, quoi?
Oui.
C'est un petit peu gênant.
Ouais. Et puis, ça ressemble beaucoup, en fait, à la taxe Zucman, puisque, alors, c'est pas sur 2%, mais c'est sur 1%. Cependant, la taxe Zucman, ça comptait s'appliquer à tous les patrimoines au-dessus de 100 millions d'euros. Là, c'est à partir de 1 300 000 euros. À la base, celui qui avait déposé l'amendement, Jean-Paul Mattei, qui est un centriste, hein, c'est même pas un PS ou LFI, c'est un centriste. Il voulait mettre le seuil d'entrée de l'impôt à partir de 2 millions d'euros. Donc tout ce qui est au-delà, valorisé au-delà de 2 millions d'euros, c'est taxé à 1% par an. Et derrière, il y a eu un socialiste, Philippe Brun, qui a mis un sous-amendement pour, en plus de ça, rabaisser le seuil là où il est aujourd'hui, donc à 1 300 000 euros. Donc ça fait quand même beaucoup, 1% par an pour des gens qui n'ont pas forcément les liquidités, encore une fois, c'est le même problème un peu que la taxe Zuckman, c'est des gens qui n'ont pas forcément les liquidités chaque année pour payer le truc.
Ça fait 13 000 euros si vous avez un appartement à Paris, improductif. Hein. Mm-hmm. Bah, vous l'avez visite à temps, les 13 000 euros par an d'impôts. Hein.
Ah oui, oui, bien sûr. Oui, c'est en plus de le reste. Hein, en plus du reste.
En plus du reste. Non, mais... C'est quelque chose de gênant là-dedans, qui me gêne énormément, c'est... qu'est-ce qui est productif? Est-ce que... un opéra à Aix qui nous donne du Mozart, c'est productif?
Je sais pas.
Et est-ce que faire garder les poules de la personne qui est présidente de l'Assemblée nationale par les CRS, c'est productif?
Je sais pas.
Non mais
je dirais plutôt que non, pas tellement.
Bon, il me semble donc, si vous voulez, que...
Après, peut-être que le rendement des poules en termes de production d'œufs est absolument remarquable et que ça vaut le coup, hein, j'en sais rien.
Très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, il me semble que quelque chose comme un opéra Aix, c'est très productif. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça amène dans la région d'Aix, puisqu'il y a le festival qui est à Aix, là, ça amène des dizaines et des dizaines d'Américains qui sont à l'hôtel, etc. Si vous dites qu'il faut... que c'est improductif, ben, ils ne vont plus venir. Mmh. Donc, il y a toute une série d'activités, comme les activités d'art, qui sont improductives, mais dont les retombées sont extraordinairement productives.
Oui, tout à fait. Et puis ça aussi, du coup, c'est dans le système financier. Donc, moi, je peux acheter de l'or, par exemple, ou je peux acheter des cryptos, voilà. Et puis après, je les revends et je les remets ailleurs, peut-être en portefeuille d'actions,
j'en sais rien. Et puis, quand vous avez une politique imbécile en France, comme on l'a aujourd'hui, est-ce qu'acheter de l'or, c'est improductif?
Alors, je dirais que pour soi, c'est très productif.
Depuis 3-4 ans, c'était pas une mauvaise idée.
Non, c'est pas une mauvaise idée, non.
Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont préservé leur épargne de façon improductive parce que le gouvernement français leur donnait du moins 4 sur les obligations.
Ouais.
Et donc, ben, s'il n'y a plus le choix, vous savez, il faut revenir toujours au grand spécialiste de la démocratie comme Staline. C'était quand même... Il avait un truc qu'il a fait 3 ou 4 fois que j'ai trouvé remarquable, c'est qu'il faisait des monnaies de papier, enfin, oui. Cette monnaie. Puis une fois tous les 10 ans, etc., comme il trouvait qu'il y avait trop d'épargne, hein, comme ces crétins,
oui.
Il y avait trop d'épargne, il changeait les billets. Et donc il vous donnait pas des nouveaux billets pour les anciens. Oui. Donc les gars qui avaient mis les billets dans leur matelas, ça valait 0.
Oui.
Et ben, on devrait proposer ça, quoi. Ça me paraît une bonne idée, mais
oui, les billets pas,
pour,
oui.
pour ça, c'est complètement productif, des billets. À quoi ça sert, des billets? D'ailleurs, ils essayent de le faire avec le truc électronique, là, les billets électroniques.
Oui.
Non, mais c'est-à-dire, ils introduisent la morale partout. La morale collective.
Ce que je trouve en plus de ça assez ironique, c'est que cette taxe, elle va aussi concerner les OAT dans les assurances vie, puisque les fonds euros en sont principalement constitués.
C'est improductif, les OAT?
Oui, oui, c'est dedans. C'est-à-dire que je rappelle quand même que les assurances vie françaises s'accumulent plus de 2000 milliards d'euros et elles sont constituées à 68% de fonds euros. C'est ce fonds qui rachète énormément de dettes françaises et qui permet ainsi un peu de l'absorber. Donc mettre un impôt de 1% là-dessus, sachant que les gains sont quand même largement limités.
Les taux, mettons, sont à 3 aujourd'hui, un peu plus de 3. Ça veut dire que ça va faire tomber le rendement à 2,5.
Ouais.
C'est-à-dire, ça va leur rapporter moins de 1% après inflation.
Ouais.
Bon, moi, si
c'est pas très intéressant, quoi.
Moi, si j'étais eux, je vendrais tout ça, j'achèterais
tort. C'est-à-dire que, quitte à être dans une assiette de biens, vous avez plusieurs biens avec une espérance de rendement dessus, quitte à avoir 1% qui vous mange dessus par an, autant aller dans le truc justement le plus spéculatif, à savoir peut-être les cryptos. Au moins, avec les cryptos, bon, ça fluctue dans tous les sens. Vous pouvez vous prendre une énorme gamelle. Vous pouvez aussi espérer un plus 50%, auquel cas, le petit 1%, il va peut-être pas paraître aussi grave pour vous. En revanche, justement, pour ces OAT, dont
vous rendez compte,
l'usine
agace, parce qu'il va falloir que le fisc soit au courant du moment où vous êtes rentré dans le crypto, du moment où vous en êtes sorti.
Et il faut un moment, il faut un jour précis pour évaluer la valeur, la plus-value latente, puisqu'elle n'a pas été réalisée. Alors, sur un yacht, je peux bien entendre, sur une année, vous pouvez à peu près savoir combien vaut vos yachts, à la limite, ou sur l'immobilier, éventuellement, sur les OAT, c'est possible. Mais en revanche, sur la crypto, c'est compliqué parce que
alors,
du jour au lendemain...
Question, est-ce que ça sera... les pertes sont déductibles?
Bah j'espère. J'espère quand même que les pertes sont déductibles parce que
Si vous
sinon.
Achetez votre crypto à 100, elle tombe à 60, vous la
Ouais.
vendez,
Ouais.
vous perdez 40 et vous la rachetez tout de suite à 60.
Ouais.
Elle vous a payé sur 60 ou sur 100?
Ah bah je sais pas, ça dépend du
Et les 40
jour
que
où
vous avez
est.
perdus?
Je sais pas, j'ai pas vu enfin j'ai vu l'amendement, j'ai regardé mais c'est pas le genre de truc qui était précisé dedans. Donc bon.
Je trouve que il va falloir sortir les fourches.
Oui, à un moment donné, va falloir sortir les fourches. Et en fait, je trouve ce truc limite
Surréaliste.
ouais, assez surréaliste et plus. C'est peut-être plus grave que l'attaque Zuckman, je sais pas. Je j'ai pas encore
Oui, parce
décidé,
qu'ils
mais
vous
c'est.
disent que c'est 1%, mais c'est sur un capital plus petit, puis il y a des tas de
Ouais.
trucs dans tous les sens. C'est aussi dramatique, et ça me rappelle, si vous voulez, quand les États-Unis, au début du XXe siècle, ont établi l'impôt sur le revenu, je crois, qui était mis à 4%. Et donc, les républicains ont accepté de voter cet impôt, parce qu'il était qu'à 4%, mais maintenant, sous Roosevelt, il est monté quasiment à 90%. Donc, si vous voulez, quand vous commencez avec 1% sur 1,3 million, on l'a vu avec la CSG, là, qui avait commencé avec 9% et que je ne sais plus où elle est. Donc, vous savez que dès le moment où c'est comme être enceinte, quoi. À partir du moment où vous avez mis 1%, vous savez que ça passera à 2, que ça passera à 3, que ça passera à 4.
C'est le pied dans la porte, quoi. C'est une
C'est le
fois
pire
que c'est
d'impôt, vous savez
mis.
que c'est foutu.
Ouais.
Vous savez que c'est.
Ouais, effectivement. Ensuite, il y a.
Et puis surtout, personne ne pose la question, mais à quoi? C'est la question que je pose depuis des années, mais où va mon pognon? Parce que je veux bien qu'on me l'augmente, qu'on augmente mes impôts, mais qu'est-ce que vous faites du fric? Parce que tout l'appareil étatique, si j'ose dire, de gouvernement, la police, la justice, l'armée, tout ça, c'est à l'os. L'éducation, ça marche pas, les hôpitaux s'effondrent, donc. La justice, ils n'ont pas un rond.
Non, mais c'est que
C'est ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il n'y a même pas de. On ne nous présente pas les comptes, quoi.
c'est que des rustines, c'est que des rustines. On se dit, oh là là, ça fuit un peu de ce côté-là, je vais mettre du scotch, ça fuit un peu de l'autre côté, on va essayer de
Mais
mettre
moi,
du
quand je
scotch.
payais mes impôts à Hong Kong, dès que j'avais payé mes impôts, j'avais un très beau document qui arrivait en disant, bon, on va envoyer ça aux hôpitaux, ça. Oui, donc je savais exactement où allait mon
Alors
pognon.
ça c'est intéressant. Il faudrait effectivement, quitte à envoyer du courrier ou j'en sais rien, au lieu d'envoyer les courriers de la mairie chaque mois où ils nous racontent tout ce qu'ils
Il y a des
font.
mairies qui vous disent où passe le pognon.
Oui, il y a des mairies qui vous disent où passe le pognon. Alors ils mettent pas que des trucs intéressants dedans. Mais effectivement, il faudrait que les Français reçoivent chaque année une lettre leur expliquant où est-ce que leur pognon va aller. Ouais, je suis assez d'accord.
Et étalé dans les 12 derniers mois, parce que s'il y a. Je sais pas, j'ai vu que M. Macron, notre bien-aimé président, vient de donner 1,4 milliard d'euros, je sais pas quoi, en Afrique. Bon ben. Je croyais que le vote du budget et des dépenses, c'était de la responsabilité de l'Assemblée.
Oui.
Donc, d'où tire-t-il ce fric?
Je ne sais pas. Il se réveille. Alors ça c'est la maladie macronite. C'est une
C'est de filer
macronite
du pognon à
aiguë.
tout le monde, quoi.
Il se réveille tous les 4 matins. Et il dit, oh là là, mais il y a ce pays à l'autre bout du monde là. Je sais pas. À mon avis, il faudrait leur envoyer 2,5 milliards. Et je ne sais pas combien de fois il a fait ça, mais j'ai l'impression que c'est une boucle temporelle, quoi. C'est comme le film Un jour sans fin. C'est tous les
Ouais.
matins
Tous les matins, on se réveille, on a la même
1,5 milliard
histoire.
pour un autre pays. Et il va bientôt nous inventer des pays pour pouvoir leur envoyer de l'argent. Enfin bon, c'est assez particulier chez
Mais
Macron
encore une
ce
fois,
truc-là.
comme nous sommes en déficit, ça veut dire que comme, je le répète une fois, pour financer ce déficit, on met de la dette.
Oui.
Donc, ces hommes d'aujourd'hui, là, ces hommes et ces femmes au budget, vote pour augmenter les impôts sur ceux qui devront rembourser sa dette, cette dette de nos enfants et nos petits-enfants. Et la démocratie n'existe que si les impôts sont votés à l'équilibre. Donc là, en quelque sorte, les politiques actuelles ruinent nos enfants et nos petits-enfants, et eux, ils n'ont pas voté pour être ruinés.
Non.
Et donc, c'est un vrai scandale démocratique. Un déficit budgétaire est un scandale démocratique, puisque ceux qui bénéficient du déficit n'auront pas à le payer. Et comme c'est la même chose dans les retraites, on se rend compte qu'il y a toute une série de de droits garantis, en quelque sorte, qu'on a garanti en français, leur retraite, je sais pas quoi d'autre, qui sont pas du tout garantis et qui seront payés par les ouais. petits-enfants.
Et en revanche, ce droit futur n'est garanti à personne. C'est-à-dire que c'est un peu, bon, vous savez pas à quelle sauce vous serez cuisiné, peut-être.
Mais dans 10-15 ans, il y a ce qu'il y a, c'est comme il y aura plus d'argent dans la caisse, les retraites sont plus payées.
C'est ça. Donc il y aura moins et puis on.
Donc
ira
c'est les retraités d'aujourd'hui, quelque part, qui demandent à ce qu'on. Ruinent leurs enfants et leurs petits-enfants, ce qui est bizarre. Ça. Mais ça ne veut pas dire que les retraités ont tort, ça veut dire simplement que notre système est idiot.
Oui. Oui, on avait fait une grosse émission là-dessus pour traiter de ce sujet début septembre. Et effectivement, j'ai l'impression que c'est un peu la source de dépenses qui a le plus augmenté ces dernières années. Donc c'est celle sur laquelle on devrait se pencher en priorité. Et j'ai l'impression que c'est la dernière sur laquelle on va se pencher.
Mais je vous donne un exemple. C'est qu'aujourd'hui, on me dit que la France est le pays qui dépense le plus pour son éducation, c'est vrai, mais une très très grosse partie des dépenses, c'est les retraites des professionnaires, des professeurs qui ont enseigné il y a 20 ou il y a 30 ans. Quoi.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, les fonctionnaires, et d'ailleurs c'est aussi valable, je crois, pour la Poste et pour la SNCF, les fonctionnaires enfin les employés de ces
Et là, les retraites ne sont pas provisionnées, c'est quand même étonnant. Quoi.
C'est-à-dire que ces retraites-là ne sont pas dans le budget de la Sécurité sociale.
Alors, je vous donne quelque chose qui m'agace, c'est, bon, les dépenses improductives.
Oui.
Bon, prenons l'exemple de M. Hollande. Il a 350 000 euros par an pour vivre de toutes les retraites qu'il a touchées.
C'est colossal ce qu'il coûte, oui.
350 000 euros par an, enfin, j'ai fait le calcul sur tous les trucs où il a été et où il a touché des retraites. D'abord, on pourrait penser qu'un homme qui a consacré sa vie à l'État ne bénéficie que d'une seule retraite.
Absolument. Il a été président de la République, donc elle devrait être correcte. Il a aussi le droit, si jamais il veut arrondir ses fins de mois, il a aussi le droit de siéger au Conseil constitutionnel par son titre d'ancien président, auquel cas il serait payé quand même 17 000 euros par mois.
Ben moi, si j'étais Sarkozy, je demanderais ça, ça ferait rire d'abord.
Oui, c'est vrai, c'est vrai ça.
Je demanderais à être au Conseil constitutionnel et à sortir pour toutes les émissions, parce que c'est important de participer aux
élections. C'est vrai, ce serait tout à fait amusant,
oui. Ben oui, ouais. Je vois pas comment on peut l'empêcher.
Oui.
Donc c'est une idée que je mets à Sarkozy, ça lui permettra de payer ses avocats. Mais donc ce que je veux dire par là, c'est vous avez ces gens-là qui, prenez un gars comme moi qui a travaillé comme passablement pendant toute sa vie et qui continue malgré mon grand âge, pour avoir une retraite de 350 000 euros indexée, garantie par l'État français, il me faut un capital au moins de 40 millions d'euros pour que je l'investisse. Ben, monsieur Hollande devrait être taxé sur ses 40 millions d'euros. Parce qu'il a l'équivalent d'une fortune. Puis ensuite, comme il a épousé une femme plus jeune que lui récemment, elle va toucher un maximum parce qu'elle va durer encore 40 ou 50 ans, cette bonne personne. Lui va disparaître bientôt, du moins, on peut l'espérer, mais.
Malheureusement, la médecine fait des progrès formidables.
Donc. Oui, il y en a pour lesquels c'est dommage. Donc. Il y aurait à peu près, d'après. 70 000 hauts fonctionnaires qui touchent plus que le salaire de députés, de sénateurs, etc. Vous savez, j'imagine que ces 70 000, ils existent dans le passé. Il y en a tout un tas qui ont des retraites énormes. Comme ils n'ont pris aucun risque dans leur vie, moi ce que je dis toujours aux gens, c'est que si vous voulez faire une taxation qui soit juste, si pas peut exister, vous devez taxer en fonction du risque pris, je l'ai déjà dit souvent. Mais si vous êtes un petit entrepreneur, vous gagnez 200 000 euros par an, c'est pas du tout la même chose que si vous êtes un cadre de L'Oréal et que vous gagnez 200 000 euros par an, ou si vous êtes un fonctionnaire du ministère des Finances et vous gagnez 200 000 euros par an.
Oui.
Le premier ne devrait pas être taxé du tout, le deuxième devrait être taxé à 30% et le troisième à 60%. Donc une mesure qu'on pourrait faire d'économie comme ça, c'est de prendre tous les gars qui ont plus d'une retraite et leur dire, vous choisissez votre retraite, tout le reste est taxé à 100%.
Oui, tout à fait.
Ce serait pas. Après tout, De Gaulle était parti de l'Élysée avec sa retraite de colonel, puisqu'il n'était que colonel. Moi, pour qu'on fasse la même chose.
Ouais.
Quiconque a travaillé dans le secteur public ne peut avoir droit qu'à une retraite. Je sais que Juppé en a 7 ou 8.
Oui. On se souvient, c'était Jean-Paul Dolevoye aussi qui était le rapporteur de la question des retraites en 2019.
Il en avait 13 dans ces années-là.
Oui, il avait 13
retraites.
13 retraites différentes.
Comment peut-on avoir 13 retraites du secteur public? Et là aussi, il n'y a pas d'audit. Donc, je suis sûr que vous regarderiez dans le domaine des retraites, vous verriez que.
Ouais. Et en plus de ça, il s'agit, pour le coup, Il ne s'agit pas seulement, parce que j'imagine qu'on nous opposera que oui, mais ça n'économiserait que pas grand-chose
Mais pas
en
voix du tout. D'abord, ça ferait du bien, ça
alors
ferait
déjà
plaisir aux Français.
ça ferait du bien. Et puis je trouve qu'il y a aussi un certain exemple à montrer, c'est-à-dire que quand on demande aux gens de serrer la ceinture pour la question budgétaire, la
Avec
première chose
budget
à
13
faire,
retraites.
voilà, la première chose à faire, c'est de serrer la ceinture soi-même, de montrer un petit peu l'exemple. À ce titre, c'est un peu normal, heureusement, que le cornu ait dit que tous les ministres qui ont été nommés là ne toucheraient pas leur indemnité de ministre, ceux qui ont été nommés pendant 24 heures, là même pas, ils toucheront rien là-dessus. Encore heureux.
Encore, mais tout le monde trouve ça admirable. Vous savez, ça me rappelle un petit peu, je connaissais une famille il y a longtemps, qui avait un très beau nom français, un très long, très ancien. Et ben, les affaires allaient mal pour la famille, et donc ils avaient réuni un conseil des familles pour savoir ce qu'il fallait couper comme dépenses. C'était une famille. Et donc ils sont réunis, et la seule chose qu'ils aient réussi à couper, c'était les sandwichs au foie gras pour le thé, quoi. C'était. Et j'ai pas peur, moi, je viens de penser que tous ces gars-là, c'est la même chose. Ils coupent les sandwichs au foie gras pour le thé, mais les trucs qui font mal, jamais ils s'en approchent même pas. Toutes les 60, je sais un peu, les milliers de hautes autorités, grands conseils, etc., personne n'en s'en approche. Il y a 130 milliards à prendre là qui ne demandent rien à personne. Et donc vous vous dites, mais. De qui se moque-t-il? En quoi y a-t-il la moindre... Il y a un mot que j'aime beaucoup en anglais qui n'a pas de traduction en français, qui s'appelle accountability. C'est-à-dire vous êtes responsable, quelque part. Tous ces gars-là, ils sont responsables de ce qui nous arrive, mais il n'y en a pas un qui démissionne.
Il n'y en a pas un qui en paye le prix derrière. Pas un seul.
Il n'y en a pas un qui
Effectivement.
démissionne, alors il donne sa démission au président qui la refuse et donc il continue à péter dans la soie, heureusement. J'ai honte, j'ai honte.
Alors il y a une taxe aussi sur les GAFAM qui en fait qui existait déjà mais qui a été augmentée donc qui passe de 3 à 6%.
Ça va pas amuser Trump, ça.
Voilà, alors d'abord, il faut dire que alors c'est Jean-René Cazeneuve qui est un centriste aussi qui avait cette brillante idée.
Pourquoi c'est toujours les centristes qui trahissent le plus?
Je sais pas mais en ce moment ils sont on fire comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. Alors c'est une taxe donc sur les services numériques qui porte sur les activités des géants du numérique tel que la publicité ciblée en ligne, la vente de données personnelles à des fins publicitaires ou encore des activités de plateforme d'intermédiation. Elle a été mise en place d'abord cette taxe en 2019. Son rendement devrait être d'environ 800 millions d'euros en 2025. Et à la base, donc Jean-René Cazeneuve voulait mettre le taux à 15%. Au final, il a été voté pour être relevé à 6%, puisque quand même on lui a
En
dit,
attendant 15,
voilà, en entendant
l'année
15,
prochaine.
il a été, Jean-René Cazeneuve, il a été convaincu parce qu'on lui a dit, bon, sérieux, c'est déjà un petit peu compliqué avec les États-Unis, si on met ça à 15%, on est vraiment, dans l'embarras, pour pas dire autre chose. Et puis certains ont dit quand même, bon, effectivement, si on entre en guerre commerciale comme ça avec les États-Unis, ceux qui exportent du vin ou d'autres spiritueux, ils vont être quand même aussi dans un sacré embarras, quoi.
Mais j'ai vu ça aussi. C'est très curieux parce que je croyais que on avait abandonné notre droit de taxer les multinationales à l'Europe. Donc, je ne sais même pas si c'est. En principe, si vous voulez, la taxation des multinationales, ça se fait sur une base européenne. Donc, je ne sais pas, ça me paraît curieux qu'il a fait ça parce que ça, c'est. C'est juste pour se faire bien voir de LFI, mais j'imagine que ça va être toqué, quoi.
Oui, de toute façon, de manière globale, il y a assez peu de chances que le projet de
Mais ils
loi
ne
de
payent
finances
pas déjà
passe.
15% de TVA, ces gars-là?
Il paye
La
15% de
TVA ou
TVA, oui, il
ils
paye
doivent
la
payer la
TVA.
TVA?
Oui, là, c'est en plus de ça, c'est une taxe en plus sur le bénéfice.
Mais ils ont fait zéro. Vous savez, la quasi-totalité de ces GAFA, mystérieusement, tout leur profit apparaissent en Irlande et il n'y a jamais rien qui apparaît en France. Donc, si vous dites on va augmenter 15%, ils auraient pu mettre 100%, puisque de toute façon, ils ne gagnent pas en France ou en Allemagne, etc. Tout leur profit file en. Parce qu'on a abandonné ça justement à l'Europe.
Ouais, non, mais c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on dit, en fait, ils déclarent quand même des bénéfices, parce que sinon c'est abusé.
Sûr,
mais ils déclarent des bénéfices qui sont largement.
C'est pour ça que ça rapporte que 800 millions.
Voilà, exactement. C'est pour ça que ça rapporte que 800 millions, parce que sinon, rien que 3% sur les bénéfices, ça devrait rapporter beaucoup plus sur toutes
ces. Vous voyez les bénéfices des GAFA, c'est monstrueux.
Ouais.
Donc, si vous appliquez les bénéfices qu'ils font dans le monde entier simplement à la France,
ouais.
Logiquement, ça devrait être une source de revenus, mais j'ai toujours dit
bien
que.
Sûr.
Comme justement, ils sont des sociétés qui permettent de faire apparaître des bénéfices là où ils veulent et que mystérieusement ils apparaissent que là où il n'y a pas de pro, il n'y a pas d'impôts, l'Irlande, la seule façon qu'on devait faire, c'était abandonner cette taxation européenne et leur mettre un impôt sur le chiffre d'affaires de 25%, comme ça.
Ouais.
C'est un peu ce que Trump a fait en mettant 25% sur les importations. Là, il taxe les gens qui ne payent pas d'impôts, quoi.
Ouais, c'est un peu ça, oui.
C'est un peu ça, donc. Ça. Moi, ça me gêne pas du tout, ça, mais ça prouve de... Moi, tout ce budget me fait l'impression de gens qui sont, vous savez, qui essayent de faire bonne figure devant l'opinion publique en disant « Moi, j'ai proposé une taxe sur les GAFA, donc je suis un type convenable, courageux et tout. Mais non, t'es juste un gros crétin, quoi. »
Ouais. Alors il y a un truc qui a été rejeté fort heureusement, c'est l'impôt, j'ai trouvé ça assez amusant d'ailleurs l'intitulé, l'impôt universel ciblé. L'impôt universel ciblé, en fait...
C'est-à-dire ciblé, encore une fois, ça veut dire le contraire. C'est-à-dire, c'est un impôt universel, mais il y en a que certains qui le paieront.
Voilà, c'est ça.
C'est ça, donc c'est pas universel.
Non, c'est pas universel.
Mais c'est ciblé.
Oui, c'est ciblé.
Ah oui, sur moi.
Mais c'est universellement ciblé, enfin de manière, bref. c'est un impôt qui visait les personnes ayant résidé au moins 3 ans en France sur les dix années précédant leur départ dans un pays à fiscalité avantageuse et qui ont au moins 230 000 euros annuels de revenus. Alors, la définition de pays à fiscalité avantageuse prête un peu à sourire parce que leur définition, c'est État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 40% à celle de la France en matière d'imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Donc ça correspond à énormément de pays. Enfin, je veux dire, là, à ce moment-là, c'est pas juste pour les gens qui vont déclarer leur truc aux îles Caïmans. Là, à la limite, je veux bien l'entendre. Je veux dire, si vous allez vivre au Texas, vous faites partie du truc.
Ou à Hong Kong.
Ou à Hong Kong, par exemple.
À Hong Kong, où j'ai vécu 10 ans. C'est...
À Singapour, ou à Dubaï. Ou...
Enfin, dans bref. Des pays qui sont bien gérés, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on met une taxe sur ceux qui ont pris la responsabilité d'aller dans les pays qui sont bien gérés.
C'est un peu ça, ouais. Oui, tout à fait. Et ça a été rejeté à pas grand-chose, parce que ça a été rejeté à 131 voix contre 132. Ah oui, bah évidemment, il y en a beaucoup qui avaient piscine ou je ne sais quoi. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'absence du côté des socialistes, ce qui a été noté par Éric Coquerel, qui était pas content parce que lui, il voulait absolument que ça passe. Chez les socialistes, il y avait 45 absents sur 47. Donc ils sont pas mal, les mecs.
Deux choses, c'est admirable qu'il y ait encore 47. Socialistes et... vous savez, c'est comme quand il a fallu voter la confiance à Pétain, il y a Herriot qui était malade ce jour-là, c'est dommage. Hein,
oui, mais il y avait beaucoup de malades, ouais, effectivement.
Il y a quand même des hommes, je vois que le courage radical socialiste se passe de génération en génération.
Il y a une vraie tradition, il y a un héritage, hein,
il y a un héritage
radical socialiste.
Le courage fillon, oui.
Oui, effectivement. Alors, on a quand même voté pour une défiscalisation totale des heures supplémentaires. Ça, j'ai trouvé que c'était pas mal. C'était un peu un hommage de Laurent Wauquiez aux années Sarkozy. Voilà, c'est le plafond existant de 7500 euros par an que l'amendement des députés LR vise à supprimer. À noter que la ministre de l'Action et des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, a exprimé un avis de sagesse, indiquant que le gouvernement serait prêt à accompagner la mesure chiffrée à 1 milliard d'euros pour l'État si les députés décidaient de la voter. Donc ça, pour le coup, j'ai trouvé ça pas mal.
Oui, c'est pas mal. Mais encore une fois, comme disait Milton Friedman, j'ai jamais rencontré une baisse d'impôt que j'aimais pas, quoi. Donc,
ouais.
Toute baisse d'impôt est bonne à prendre, quoi.
Ouais, c'est ça. Et ensuite, taxe.
Vous savez ce que disait Milton Friedman? Il me faisait rigoler quand même. Il avait une histoire, il rencontrait, c'était vrai. Il disait, alors moi, je gère un peu mes actions. Et je ne suis jamais investi quand le Congrès est en session à Washington. Donc c'est à peu près la moitié du temps. Donc quand le Congrès est en session à Washington, il disait ni mon honneur, ni ma fortune, ni mon revenu ne sont protégés. Donc tant qu'ils sont en session, Je n'investis pas. Ouais. Dès qu'ils sont partis en vacances pour s'occuper de leur région, là où ils, d'où ils sont élus, à ce moment-là, ils investissaient en disant « il ne peut rien m'arriver, je connais ce qui peut m'arriver, c'est fait
ouais. ».
Ben, je crois qu'il faudrait faire la même chose aux Français, c'est-à-dire leur dire « vous n'êtes pas investi tant que le gouvernement, tant que le Parlement est en session. Dès qu'il n'est plus en session, vous pouvez y aller, il n'y a plus rien à craindre. »
Oh, ce serait intéressant de voir ça, à mon avis, ça marche très bien en France sur les deux dernières années.
Oui, on pourrait faire si vous avez le temps, essayer de faire une petite simulation, voir la performance de la bourse quand le Parlement est en session et la performance de la bourse quand le Parlement n'est pas en session.
Ouais, faudrait regarder. À mon avis, en tout cas, j'ai le souvenir que l'an dernier, vers octobre-novembre, donc la même période qu'en ce moment, donc le budget était déjà en discussion et le CAC 40 allait pas fort du tout. Donc et ensuite il a rebondi après je sais plus combien de temps, mais enfin quand on
quand parlait de Noël approche.
Voilà, quand on parlait un petit peu moins de la question. Ouais, là à mon avis ça doit plutôt bien marcher.
Essayez de regarder ça sera rigolo.
Ce serait intéressant effectivement. Ce qui m'a à peu près autant scandalisé que l'impôt sur la fortune improductive. C'est la taxe sur les rachats d'actions, parce que, alors ce qui m'a encore plus scandalisé que la mesure en elle-même, je crois que c'est la justification, parce qu'en fait, là, il faut reprendre les bases, quoi. C'est-à-dire que il faut pas parler de ce dont on, enfin, de ce qu'on connaît pas, autant que possible.
Il serait silencieux. L'Assemblée nationale serait un oui. désert de silence.
Ouais. En fait, là, j'ai l'impression qu'il y a des députés qui se forcent à faire des trucs, quand bien même ils comprennent pas ce qu'ils font, juste pour pas faire genre qu'ils font rien. Mais limite, je crois que je préférerais qu'ils fassent rien. Juste votez vos trucs à l'Assemblée, mais n'écrivez pas d'amendements, s'il vous plaît, parce que là, je crois qu'il y a quelques problèmes. Donc là, c'est un amendement qui alourdit la fiscalité sur les entreprises, qui a été en ciblant les multinationales. Surtout. Alors d'abord, il y a eu un amendement de la France Insoumise qui visait à abaisser le seuil de déclenchement, j'arrive plus à parler, de l'impôt minimum de 15% sur les bénéfices des multinationales. Ce seuil actuellement fixé à 750 millions d'euros de chiffre d'affaires passerait à 500 millions d'euros. L'amendement voté par 175 voix contre 92 a été soutenu par le Rassemblement National. Donc ça, c'est impôt sur les bénéfices des sociétés. Ensuite, il y a les rachats d'actions. Donc là, c'est une idée du Rassemblement National, puisque là c'est une opération, les rachats d'actions par laquelle une entreprise rachète donc ses propres actions sur le marché. Donc là c'est une mesure qui a été votée par 109 voix contre 94 avec uniquement les suffrages du groupe de Marine Le Pen. Cet amendement modifie profondément la taxe mise en place en 2025 en élargissant l'assiette à l'ensemble des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros en augmentant le taux de 8 à 33%.
Alors, je voudrais faire une remarque ici, si vous laissez. Vous êtes une entreprise, mettons, allez à de sidérurgie dans les années 60. Mm-hmm. La reconstruction a eu lieu, la demande de sidérurgie, la demande d'acier baisse. Donc, vous vous retrouvez avec un cash flow, vous ne faites plus d'investissement parce que la demande baisse et vous avez les amortissements qui arrivent. Donc, vous redonnez le capital à vos actionnaires en partant du principe que ça veut dire que la rentabilité dans la société est plus suffisante pour que vous fassiez des investissements, donc vous leur donnez le capital pour qu'ils aient la responsabilité
oui.
de le réinvestir ailleurs où ça sera meilleur quoi.
Oui.
Et cet amendement l'interdit, donc ils veulent qu'on continue à faire comme disait De Gaulle, des bateaux à voile et des trains à vapeur quoi. Donc c'est un amendement qui intellectuellement, économiquement, scientifiquement est complètement crétin.
Ouais.
Ça empêche la fluidité du capital.
Mmh.
Le capital de circuler d'une société qui va pas bien à une société qui va mieux.
Mmh. Encore une fois, on a aussi la même appréciation de la chose, c'est-à-dire productif, improductif. C'est-à-dire en gros, il décide que en gros racheter ses parts grâce à ses bénéfices, c'est improductif. En fait, il faudrait remettre ça dans l'économie réelle.
En le rendant aux actionnaires, on le fait.
Oui.
Surtout si c'est... Mais je sais pas, si l'actionnaire, c'est la Girc-Arco, elle saura quoi faire. Elle paiera les retraites des gens qui ont payé la Girc-Arco. Mm-hmm. Donc, l'argent est un bien fongible, c'est-à-dire qu'il passe de gauche à droite tout le temps. Et donc, si vous empêchez ces mouvements, par définition, vous empêchez la croissance. Parce qu'il faut que l'argent passe de celui qui ne sait pas quoi en faire à celui qui a une bonne idée.
Mmh. En fait, là, il s'agit aussi d'obliger un mouvement plutôt qu'un autre. Donc, j'ai quand même regardé, parce que cet amendement, il a été déposé par un député, donc RN, Kevin Mauvieux. Donc, je n'ai rien contre cette personne, il est peut-être très sympathique. Mais j'ai regardé un petit peu son exposé, du coup, des motifs, et j'ai pas été convaincu du tout. Il explique les rachats d'actions permettant aux grandes entreprises de distribuer des milliards à leurs actionnaires en contournant largement les règles fiscales et l'équité liées à leur capacité contributive, c'est-à-dire 25,5 milliards d'euros en 2025. Pourtant, l'assiette retenue lors du PLF de l'année dernière paraît trop étroite, la taxe s'appliquant à la valeur nominale des titres et non à la valeur d'achat, c'est-à-dire différence entre valeur vénale et valeur nominale. Bon, à la limite, pourquoi pas. Il explique en outre, le taux de 8% n'apparaît pas suffisant au vu des sommes en jeu et de la nécessité de taxer ces opérations improductives et fiscalement peu morales. Je ne sais pas pourquoi c'est fiscalement peu moral. Au passage, taux de 8% pas suffisant, j'ai regardé dans la plupart des grandes économies mondiales, ce taux il n'existe pas, ou très très peu, en général pas plus de 1%.
Mais vous rendez de l'argent aux actionnaires, c'est-à-dire encore une fois, vous voyez, je ne sais pas qui c'est ce brave garçon, je ne doute pas qu'il soit dans un milieu très, très paysan, très, très sain, mais la réalité c'est que le droit de propriété existe. Constitutionnellement, donc le conseil d'administration a un président qui est nommé qui peut être viré ad nutum, il n'avait aucune garantie, et donc ces gens-là ont du cash, ils ne savent pas quoi en foutre, et ils le rendent à leurs actionnaires, à charge pour eux de l'investir productivement ou improductivement.
Tout à fait.
Si l'actionnaire a envie de se payer des petites jeunes femmes avec le pognon... Ben, on peut penser que les petites jeunes femmes vivront bien et dépenseront leur pognon productivement. Donc ça n'est pas le rôle du gouvernement de décider. Ça, vous pouvez le faire parce que c'est moral. Et ça, c'est pas... La question, c'est est-ce que c'est légal ou est-ce que c'est pas ou c'est illégal. Encore une fois, j'en ai rien à foutre de la moralité de ce monsieur. J'aimerais être certain qu'il respecte la loi, et en particulier qu'il respecte la Constitution, c'est-à-dire le droit de propriété.
Tout à fait. Il poursuit plus loin. En conséquence, le présent amendement prévoit de modifier fondamentalement la taxe afin de dégager un rendement de 8,4 milliards d'euros la première année et de dissuader ces opérations purement spéculatives les années suivantes.
Mais qu'est-ce qu'il en sait que c'est spéculatif, alors,
second
cornio?
Je ne crois pas en quoi c'est purement spéculatif.
Ils ont du pognon, ils ne savent pas quoi en faire et ils rachètent les titres. Il n'y a pas de différence, si vous voulez, pour un économiste, il n'y a pas de différence entre racheter ses actions et distribuer des dividendes.
Bien sûr.
C'est la même chose.
C'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on ne distribue pas en dividende, en gros, admettons, j'ai une action, j'en sais rien, Total, qui vaut 10 euros, je devrais normalement peut-être recevoir un dividende de 50 centimes. Au lieu de ça, les bénéfices qui auraient dû servir à la base à verser des dividendes vont servir en termes de rachat d'actions. Bon, bah, ça veut dire qu'en fait, mon action, elle va valoir plus de 50 centimes. En gros, au lieu d'avoir une action de 10 euros avec un dividende de 50 centimes, je vais avoir une action de 10,50 euros. Bon, bah voilà, c'est à peu près la même opération financière.
Et
c'est
là,
une plus-value.
J'ai eu une bonne question, ça. J'ai vu, je crois que c'est Air Liquide, là, comme vous savez que j'aime beaucoup Air Liquide. Ils viennent de déclencher une opération de rachat de titres.
Oui.
Ils vont racheter les titres, mais simplement à leurs actionnaires qui sont là depuis 3 ans. Ben, je trouve ça très bien, moi.
Et c'est aucunement spéculatif.
C'est aucunement spéculatif, parce que s'il y a quelqu'un qui s'occupe bien de ses actionnaires, c'est Air Liquide.
Ouais.
Et j'ai vu que Total faisait une grosse émission en capital, pour lever de l'argent, uniquement réservée aux gens qui travaillent chez eux. Ben, ça me paraît très bien, ça aussi.
C'est aucunement spéculatif,
c'est
encore
aucunement
une fois.
Spéculatif. Donc, ces crétins qui prétendent être capables de savoir ce qui est un investissement spéculatif et ce qui n'est pas un investissement spéculatif. Je sais pas, moi, quand j'achète un ordinateur, est-ce que je regarde TikTok dessus? Pendant que je regarde TikTok, c'est spéculatif parce que
je ne sais pas.
Parce que j'amortis mon ordinateur quand même dans l'entreprise.
Je sais pas. Ce serait spéculatif de dire si c'est spéculatif.
Voilà. Et pendant que je fais mes calculs à la noix pour savoir où il faut investir, ça serait pas spéculatif. Donc il faudrait, je sais pas, qu'on mette 50% spéculatif. Et plus je passerai de temps sur TikTok, et plus ce serait spéculatif. Et il y aurait un type qui regarde. On embaucherait un gars du fisc, là, qui regarderait combien de temps je passe sur TikTok et qui serait dans mon dos tout le temps en train de dire, là, vous avez passé 65 minutes sur TikTok.
Ah oui, là, maintenant, ça devient spéculatif.
À partir de maintenant, je vous signale que ça devient spéculatif. On peut plus amortir qu'un tiers de l'ordinateur. Non, mais ces mecs sont complètement fous.
Ouais. Et d'ailleurs, j'ai regardé aussi son intervention à l'Assemblée nationale. Et là, je vois qu'en fait, on a des propos qui sont vraiment confus parce que il a expliqué que les entreprises avaient besoin, en gros, il dit, il se sert de l'existence des petites sociétés qui sont aussi beaucoup beaucoup taxées pour dire il faut plus taxer les plus grosses sociétés parce que les petites sociétés elles me disent dans ma circonscription qu'elles ont absolument besoin du crédit impôt recherche car on les surtaxe. Alors je vous apprends quelque chose déjà, c'est pas parce que des petites sociétés sont surtaxées qu'elles vont être moins surtaxées parce qu'on va davantage taxer les grosses sociétés, premièrement. Deuxièmement, la justification derrière elle est très mauvaise parce qu'il dit parce que entre-temps les milliards qui pourraient servir à l'économie réelle partent dans des dividendes versés grâce à des pratiques comme les rachats d'actions. Alors là, on est totalement confus. Là, il faut choisir. Soit on distribue des dividendes, soit on rachète des actions, mais ça peut pas être les deux en même temps. Les bénéfices, ils peuvent pas... si je fais un milliard
et
de bénéfices,
fois,
c'est soit l'un, soit l'autre.
C'est-à-dire que les dividendes seraient une espèce de truc qu'on donne à des gens qui ne le méritent pas.
Et qui seraient pas taxés, dans l'idée.
Qui seraient
taxés à 30% quand même. Mais mec,
d'abord, ils sont taxés, et ensuite, la société dans laquelle ils ont mis leur capital a déjà été taxée. Les dividendes, c'est après impôt.
Oui.
Donc, la dividende, donc, c'est-à-dire que sur les 100 qu'a gagné la société, elle va payer 20, mettons 30% à l'ordre d'impôt, il en restera 70, puis ensuite on va les verser aux gars, et donc on nous propose de leur. Donc, il ne va même pas leur rester 50%. Donc, d'abord, le dividende, c'est la rémunération du risque qu'a pris tel ou tel en mettant de l'argent chez Air Liquide ou chez Total.
Mmh. Et c'est une politique de. Comment dire, d'allocation de son
profit,
de son bénéfice. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui se disent, notamment des entreprises qui sont assez nouvelles et qui n'ont pas atteint une certaine maturité, typiquement dans l'intelligence artificielle ou je ne sais où, elles vont se dire, oulala, faut absolument investir à droite, à gauche, j'ai plein d'idées de trucs qui peuvent être rentables.
Les marginales du capital investi très fortes. Mm-hmm. Elles vont pas distribuer de dividendes.
Voilà, exactement.
Et personne n'en demandera, d'ailleurs.
Et personne n'en demandera, puisqu'en fait, on investit un peu sur le futur de la boîte elle-même pour faire grossir, justement, le chiffre d'affaires et les bénéfices. Donc là, à ce moment-là, tout cet argent, il va aller ailleurs. Ensuite, il y a des entreprises qui atteignent un certain niveau de maturité et qui vont se dire, bon, bah, nous, soit on va distribuer un bénéfice, soit, en fait, on va aussi envoyer un bon signal au marché en disant, bah, on va racheter nos propres actions parce qu'on croit en la valeur de ce titre, déjà, la valeur future.
Et on sait pas très bien quoi faire avec notre fric.
On sait pas trop quoi faire avec notre fric. On n'a pas d'idée d'opération d'investissement qui va être rentable là à court ou moyen terme. Donc on n'a pas vraiment grand chose d'autre à faire avec notre fric. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, il y a aussi des entreprises qui font ça pour augmenter leur contrôle, tout simplement, le contrôle sur la direction. Il y a des entreprises, à un moment donné, elles sont en difficulté, elles sont un peu contraintes de vendre des titres pour essayer de joindre les deux.
Une augmentation de capital. Et
voilà,
à ce moment-là,
exactement.
Et ensuite,
les années passent, vous arrivez à faire du bénéfice, vous gérez hyper bien la boîte, et à ce moment-là, vous dites, bon, bah, tout ce qu'on a été obligé à contre-cœur de vendre il y a quelques années, bah, maintenant, on va le racheter et on va garder un bon contrôle sur la société. Enfin, voilà, je trouve que c'est une opération absolument pas spéculative, pas plus, ni plus ni moins spéculative que de verser des dividendes, et qui ont servi d'ailleurs à énormément d'immenses multinationales, bah, de devenir justement des immenses multinationales telles qu'on les connaît aujourd'hui, quoi.
Ben voilà. Et encore une fois, ce qui me tue dans tout ça, c'est que ces gens qui sont au Parlement, pourquoi on les a amenés là? On les a amenés là pour qu'ils gèrent le budget de l'État, dans lequel on ne peut pas dire qu'ils aient fait ça à la satisfaction générale. Et donc, à la place de s'occuper de ce qui est leur travail, s'occuper du budget de l'État, ils vont emmerder les gens qui gèrent convenablement leur société, en disant c'est spéculatif. Mais d'abord, ce qui est complètement spéculatif, c'est d'avoir le budget en déficit. Et ça fait 50 ans que ça dure en France facilement.
Ouais.
Donc, qui s'occupent d'abord de leurs affaires, et ensuite, quand ils auront géré à la satisfaction générale le budget de l'État, ils viendront peut-être nous expliquer comment je dois gérer ma boîte. Mais je vois pas ce qui leur donne la crédibilité,
la légitimité
pour aller dire au patron d'Air Liquide, voilà ce que vous devez faire. D'ailleurs, quand j'ai vu passer le patron de Total, il y en avait un autre qui était passé aussi à l'Assemblée, mais c'était le patron de Dassault qui leur a dit, mais foutez-nous bien la paix. Ouais, ça fait, déjà, on a assez de mal à se démerder tout seul. On n'a pas besoin de vous sur le dos. En plus, vous êtes des gros nuls,
c'est
quoi.
C'est clair, c'est clair. Et je crois qu'en fait, un des trucs qui m'alarme le plus, c'est un peu comme, j'ai pris, malheureusement, cet exemple de Kevin Mauvieux. Encore une fois, je le connais pas, j'ai rien contre lui. Mais là, je vois
mais
bien
si
que...
Il faut avoir contre lui, il comprend rien. S'il comprend rien, là, il devrait pas être député.
Je vois bien qu'il y a quelqu'un qui propose un amendement sur une taxe. On comprend, je comprends même pas son propos. Lui-même n'a pas l'air de comprendre son propre propos. Il confond dividendes, rachat d'actions. Il dit que c'est une opération spéculative. En fait, j'ai l'impression que dès qu'on parle de grosses sommes d'argent, par essence, c'est spéculatif.
Mais à ce moment-là, tout ce qu'il dit sur le budget de l'État, ça fait quoi? Ça doit être la première fois qu'il est député, ce brave garçon. Mais en fait, ça fait 50 ans qu'il y a des députés. Il n'y avait pas des députés du Front National. Mais le RPR, le Parti Socialiste, ils sont là-dedans jusqu'au cou. Donc, qu'est-ce qui leur donne la légitimité? C'est comme si vous étiez là, et en 1944, oui, vous donnez la commandement du débarquement de Normandie à Gamelin, qui était le type qui nous avait fait prendre la branlée en 40. Donc, quand vous vous êtes planté, surtout pendant 50 ans, vous restez modeste.
Ouais. Et puis ça me fait penser d'ailleurs aussi à Éric Coquerel, qui est quand même président de la commission des finances,
qui sait pas la différence entre chiffre d'affaires et profit, alors
voilà. Et voilà, qui ne savait même pas lui-même comment allait fonctionner la taxe Zucman, dont il était un chaud partisan.
Et puis un type quand même qui a quand même été communiste toute sa vie, avec 100 millions de morts dans le parti communiste,
il devrait connaître les taxes normalement.
Non, mais d'abord lui aussi il pourrait faire preuve d'un peu de modestie, alors qu'on lui dit il dit non, il n'y a pas eu 100 millions de morts, c'est pas vrai. Comment ça, il a qu'à lire le grand dossier sur le communisme qui avait été publié il y a 30 ou 40 ans, et les 100 millions de morts sont là, et il n'y a pas de doute, quoi. Ça,
alors, je rappelle quand même que quand on regarde la courbe mondiale de l'espérance de vie, on voit littéralement, dans les années 60, le petit creux du grand bond en avant de Mao. Hein. C'est quand même... bon.
Donc, si vous voulez, tous ces braves gens qui se sont trompés politiquement, ont soutenu des régimes meurtriers, ont amené la France en déficit pendant je sais pas combien de temps, etc., et qui viennent ensuite expliquer à Air Liquide, qui est une merveille, comment ils devraient gérer leur affaire, j'ai envie de leur dire, mais donnez votre démission. C'est honteux ce que vous faites.
Alors justement, en parlant d'ailleurs de la taxe Zucman, celle-là, elle a été rejetée. Donc voilà, fort heureusement, par 172 voix contre 228. Voilà, globalement, il y avait que les voix de la gauche, hein, qui étaient pour. Tout le reste était contre. Donc là, c'est plutôt une bonne chose.
Sauf si elle revient par la fenêtre. Hein.
Sauf si elle revient par la fenêtre. Alors, j'ai cependant une consolation par rapport à tout cela. C'est que toutes ces discussions, d'abord en commission, puis à l'Assemblée, il y a un côté un petit peu vain.
Que des paroles verbales.
C'est un peu que des paroles verbales. D'ailleurs, je soupçonne certains amendements d'exister, et je soupçonne aussi certains députés de voter des trucs, tout en sachant très bien que derrière, ça ne va pas avoir lieu. Donc, je ne peux pas parfois sonder les âmes, mais enfin, j'ai quelques soupçons. En gros, déjà, on va avoir une petite pause sur cette question des recettes, puisque là, pendant au moins une dizaine de jours, je parle au moment où on enregistre cette émission, on va avoir les débats sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc là, ça va être la partie plus dépenses, avec quand même 2500 amendements à regarder. Donc ça fait beaucoup de travail. Je doute qu'ils en arrivent à bout. Derrière, en plus de ça, ça va devoir être examiné par le Sénat. Enfin bref, on va revenir un petit peu plus tard, par conséquent, sur le projet de loi de finances, la partie recettes. Et ce qui est assez probable, c'est que en cas de rejet donc du projet de loi de finances, une loi spéciale pourrait être votée comme fin 2024 pour autoriser l'État à percevoir les impôts existants. Les dépenses seraient gelées par décret en attendant le vote éventuel d'un budget en bonne et due forme début 2026. Il y a une autre option qui est possible, c'est que si le Parlement ne s'est pas prononcé d'ici au 23 décembre sur le budget,
les ordonnances.
Voilà, on pourra procéder par ordonnance, donc un budget appliqué sans vote, une procédure qui est d'ailleurs inédite sous la 5e République. Voilà, c'est un peu les deux grandes possibilités.
Ce qui est intéressant quand on voit tout ça, c'est que finalement, on se rend compte que l'Europe est en train d'essayer de libérer, enfin de coincer la liberté de parole, vous savez, la censure. Et maintenant, la liberté de parole et le vote de l'impôt par les élus, c'est les deux piliers de la démocratie. Donc on est en train de nous en supprimer en Europe, et je vois qu'on est en train de nous supprimer le deuxième en France.
Ouais.
Donc tout est bien parti, les gars, on va vers un régime fasciste.
Oui.
Il n'y a pas le moindre doute. Et d'ailleurs, ce régime fasciste, il y a la gauche comme d'habitude.
Oui, un régime, oui.
Faut pas oublier que Benito Mussolini était premier secrétaire du Parti Socialiste Italien, quand même, avant de devenir fasciste, et que le national-socialisme, il s'appelait pas national-capitalisme, il s'appelait national-socialisme.
Ouais.
Les régimes meurtriers ont toujours eu socialisme dans leur
nom. Il y a souvent eu une origine à gauche, effectivement, oui.
Ben, tous les cas de famine dans le XXe siècle ont eu lieu avec un régime qui avait dans son nom socialiste. Les gens crevaient de faim, toujours sous la bannière socialiste.
Oui, c'est pas faux. Ouais. Oui.
Donc, Monsieur Coquerel, il devrait être extrêmement modeste.
Oui, je crois qu'ils en ont rien à fiche. J'ai même vu, je crois que c'était un député du PCF qui disait que visiblement ils n'avaient pas fait assez de morts.
Ah oui, mais les 100 millions, c'est pas assez. Oui,
là, j'étais quand même un petit peu interloqué. Ouais,
on peut dire qu'au Cambodge, ils ont fait à peu près ce qu'il fallait. Il y en avait à peu près 50% de la population qui y est passée. Quoi.
Oui, c'est pas
tout
mal.
Tous ceux qui avaient des lunettes.
Oui, effectivement, la myopie était associée à la bourgeoisie.
Parce qu'il savait lire.
Oui, parce qu'il savait lire. Et d'ailleurs, la bourgeoisie était plus qu'un statut social, c'était une espèce d'état d'esprit héréditaire. Et donc, il fallait aussi massacrer des enfants, y compris des bébés contre des arbres, notamment. Voilà, ça, c'était vraiment absolument nécessaire.
Dans tout ça, si vous voulez, c'est toujours ça. Ça s'est fait avec le complet soutien de la gauche, et je me souviens de... Genre la Couture, un grand homme de gauche qui disait qu'il n'avait rien dit contre les trucs au Cambodge, parce que le premier qu'il avait dénoncé, c'était le Figaro. Ouais. Donc, comme le Figaro le dénonçait, c'était quelque chose qui était insupportable. Que les gens se fassent massacrer au Cambodge, ça ne le touchait pas, mais que c'était été dénoncé par le Figaro. Donc, on se rend compte que ces gens-là ne vivent qu'en tribu et qu'ils ne veulent pas dire autre chose que ce que dit leur tribu. De peur d'être... On vous dit que vous êtes d'extrême droite.
Oui, oui. Et à mon avis, on a besoin de l'exact inverse. Je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui est capable de dire « je m'en fiche de ce que vous pensez ».
Et c'est là où Zemmour a eu beaucoup de courage, c'est qu'il a été le premier à libérer la parole. Et ça, je suis très reconnaissant.
Oui, c'est sûr. Bah, ça lui a pas ramené beaucoup de choses en termes de popularité, mais pour le coup, oui, on peut pas lui, je peux pas lui reprocher de ne pas dire ce qu'il pense.
Oui, voilà, c'est quand même la moindre des choses, quand même, un intellectuel. Donc, par exemple, ici, nous, on considère que le communisme est une abomination, a toujours été une abomination, et que quiconque a été favorable au communisme a quelque chose qui ne va pas dans sa tête, quoi. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que on vous en veut personnellement si vous avez été favorable au communisme. On dit simplement, vous avez eu un moment où vous avez pensé comme des trucs.
Ouais. Voilà, pour le coup, il y a littéralement des études sur la corrélation entre des troubles psychiques et l'adhésion à des thèses d'extrême gauche. Il y a une corrélation directe. Donc, pas tous, enfin, quand même beaucoup.
Voilà. Donc, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de vérité, il n'y a de vérité que dans la discussion. Et là, c'est pas un budget dans lequel il y a eu des discussions, puisqu'on n'a pas discuté de l'essentiel, on a discuté de l'accessoire. Donc, ça veut dire que nos régimes politiques sont malades à en crever, puisqu'ils réussissent plus à discuter de ce qui devrait faire leur justification, c'est-à-dire l'argent des Français, comment il est géré.
Ouais.
C'est quand même étonnant.
Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Il y a l'autre qui ronfle qui décide qu'on en a fini avec cette émission. Ouais. Je suis d'accord avec lui. Donc, je vous remercie, bien sûr, pour votre attention, comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Normalement, quand cette émission sera diffusée, le nouveau site de l'Université de l'Épargne sera disponible. Normalement. Si jamais c'est pas le cas, vous avez quand même le droit de vous abonner. Il y a toujours le lien dans la description. On vous en parlera peut-être davantage dans les prochains jours, prochaines semaines. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.
Et merci encore.
Sur l'Institut des Libertés.